Dans le mot « information », on trouve le terme « formation ». Quel est le rapport entre ces deux termes? L'information, telle qu'elle est proposée aujourd'hui, permet-elle aux lecteurs ou aux auditeurs de réfléchir, d'orienter leur jugement? C'est tout le défi des journalistes, mais aussi des médias de toutes sortes. Patrice de Plainquette a été, depuis 1972, journaliste pour divers journaux ou revues. Il est également essayiste et a publié de nombreux livres. Aujourd'hui, il est actif notamment sur plusieurs blogs pour informer et permettre de discuter de l'actualité chrétienne. Il nous dit l'importance du lien, selon lui, entre information et formation.
De la part du public, s'il n'est pas formé, il ne peut pas faire le tri dans les informations qu'il entend. Mais de la part des informateurs, des professionnels de l'information, par exemple des journalistes, si eux ne sont pas formés, ils courent le risque de devoir commenter des événements qu'ils ne comprennent pas, ce qui est continuellement le cas dans le domaine de l'actualité religieuse, par exemple, qui est un des domaines les moins connus de la culture actuelle. Donc, entre information et formation, et cette espèce de ping-pong entre le public et les informateurs, ce sont en fait des univers différents.
Une formation initiale est donc nécessaire pour comprendre les informations, pour les digérer et pour les analyser. Et le domaine du religieux est, selon Patrice de Plainquette, l'un des plus délicats à aborder.
Du côté du public, alors là, on pose le problème immense de l'enseignement et aussi le problème de la formation des fidèles eux-mêmes à leur religion, mais également les former au décryptage des médias, c'est-à-dire à ne pas se laisser influencer par une information qui elle-même était imparfaite ou faussée par manque de compétences. Or, on constate que dans beaucoup de cas, le public catholique se laisse influencer par ce qu'il entend sur sa propre église dans les médias. Et il croit plutôt ce qu'il a entendu à la télévision ou à la radio que d'avoir le préjugé favorable. Qui est évidemment créé une situation très embêtante, et ça on l'a vu cette année, on l'a vu encore plus au début de l'année dernière, c'est un problème récurrent.
Du côté des médias, la question de la formation se pose aux auditeurs. Peut-on former à travers les informations et les productions que ces journaux, radios, télévisions ou sites internet proposent?
Les grands médias vous diront, notre métier n'est pas de former, mais d'informer. Alors certainement, une information qui serait en même temps formatrice pourrait exister, mais sûrement pas de la part des gros médias. Ça serait de la part de médias plus engagés, par exemple dans le domaine religieux, mais pas seulement. Mais se pose alors un autre problème. Comment trouver quelque chose en plus des informations extrêmement brèves du format de l'audiovisuel actuel, où tout doit aller très vite, où une information en chasse une autre. La grande peur, c'est de traîner trop longtemps sur un sujet parce qu'on a peur que l'auditeur, le spectateur, zappe et passe à la station ou à la chaîne d'à côté. Alors, est-ce que c'est possible d'apporter quelque chose en plus? Est-ce qu'on peut trouver des modules qui permettraient d'approfondir un sujet, donc de donner aux gens des éléments de connaissance et des éléments de point de vue plus riches que le zapping permanent des informations rapides? Alors ça, la réponse varie à l'infini selon qu'on parle de médias plus ou moins grands.
Dans la grande diversité des médias, les diverses propositions faites par les organes chrétiens sont plus attentives à cette dimension formative, selon ce qu'explique Patrice de Plainquette.
Si on prend par exemple les radios catholiques en France, elles font le travail vraiment très bien. Elles ont un public très fidélisé, qui d'ailleurs n'est pas seulement catholique, qui écoute ces stations parce que ce sont de bonnes radios. Donc, ces auditeurs reçoivent une formation de la part de ces médias-là, puisqu'ils apprennent des choses et ils apprennent des points de vue dont ils ne se doutaient pas avant de fréquenter RCF ou Radio Notre-Dame ou toutes les autres. Maintenant, si on passe sur le format de médias plus commerciaux, plus importants en volume, en masse d'auditeurs, etc., alors là, ça dépend entièrement des émissions. Certaines émissions, par exemple historiques ou philosophiques, sur des stations un peu plus exigeantes, sont extrêmement formatrices. Et ceux qui écoutent ça sont ceux qui ont déjà un centre d'intérêt. C'est plutôt des universitaires, des enseignants, des étudiants, etc. Pour le grand public un peu indifférent, qui lui passe comme ça, zappe d'émission en émission uniquement pour se divertir, là le problème est beaucoup plus difficile à saisir. Comment est-ce qu'on peut même imaginer que l'information divertissement puisse être formatrice? Ça, j'en suis pas sûr.
Il est donc impossible, vu la diversité des médias, de mettre systématiquement en parallèle formation et information. Mais l'attente et les choix du public sont également pointés. L'infotainment, contraction des deux mots information et entertainment, information et divertissement, est ainsi de plus en plus prisé. Les jeux télévisés en sont par exemple la preuve. Mais la qualité et la profondeur de cette information n'aident pas forcément à une véritable formation.
Le ludique est en théorie un bon outil puisque le partenaire, je veux dire le public, quand il est dans du ludique, il se sent plus concerné parce que ça l'amuse, ça le divertit, c'est l'entertainment, le concept américain. Donc on a là un auditeur plus réceptif. Mais d'un autre côté, quelle sera la formule de cet entertainment? Si c'est du zapping ultra rapide, ça ne peut pas être formateur. Parce que pour qu'il y ait formation, il faut qu'il y ait approfondissement. Il faut qu'on puisse rester quand même quelques instants sur un sujet. Sinon, ça n'apportera rien. Et c'est là qu'est la grande contradiction de l'industrie actuelle du divertissement audiovisuel, c'est que ça mise sur l'éphémère et la succession extrêmement rapide d'impulsions et d'émotions. Et ça, c'est tout à fait le contraire de la formation. L'émotion peut, à la rigueur, introduire à une curiosité qui pourra déboucher sur une quête de formation. Mais si on s'en tient à l'émotion, c'est pas formateur, parce qu'on zappe d'émotion en émotion.
Ces émotions, il faut malheureusement constater qu'elles tirent souvent leur source d'événements tragiques, ce qui peut être un frein à une véritable formation des consciences.
Les médias qui jouent sur le négatif et sur l'émotif ne cherchent pas à former les consciences. Mais les médias qui cherchent à former les consciences ne jouent pas sur le négatif et l'émotif. Alors comment obtenir que les gros médias commerciaux se mettent à jouer sur le positif et le raisonné, sachant que le négatif, la catastrophe, la mauvaise nouvelle, fait toujours beaucoup plus d'audience que la bonne nouvelle. Comme disait le vieux proverbe journalistique du siècle dernier, les trains qui arrivent à l'heure, ça ne fournit pas une information. Donc c'est sûr que la mauvaise nouvelle est censée faire plus d'effet sur le public que la bonne nouvelle, donc la grosse machine des médias va rechercher les mauvaises nouvelles et va les monter en épingle. Ça, c'est le côté malfaisant d'une véritable machinerie. C'est pas de leur faute, c'est pas de la perversité de la part des journalistes. C'est parce que toute la machine, toute l'usine de la commercialisation de l'information, son meilleur carburant, c'est la mauvaise nouvelle.
Dans le domaine de la formation à travers l'information, l'Église, forte de la bonne nouvelle du Christ qu'elle cherche à annoncer au monde, a donc une place particulière à prendre.